Merci à Dominique Schnapper pour ce propos marqué au sceau de la subversion la plus féroce, ce qui ne m'a pas du tout surpris.
La modération. Non, marquée par la modération.
Bien. Et donc, on va pouvoir donc ouvrir la discussion. Ah oui, on a reconnu, on a reconnu bien des grands noms, effectivement, disons de la fin du 18e, du 18e siècle français ou du début du 19e. Et ce qui est d'ailleurs un très grand plaisir, il faut bien le reconnaître, tout ça revisité par vous. Je crois que merci d'avoir essayé de faire tenir votre propos dans un temps relativement serré. Ça va nous permettre de pouvoir discuter un petit peu pendant que Déborah s'occupe de quelques nourritures matérielles pour nous soutenir en cette fin de journée, peut-être de boire un peu, pas trop tout de même. Et on peut ouvrir la discussion. Moi-même, j'avais quelques questions, évidemment, à poser, des questions qui me brûlent les lèvres, mais je vais me retenir avec une exquise courtoisie pour que vous puissiez ouvrir le feu. Voilà.
Si vous posez la question, c'est en quoi considérez-vous, et voulez-vous faire aller plus loin, que les modes actuels de communication, qui selon moi sont moins la télévision que les réseaux sociaux, contribuent-ils porte-t-il en germe le risque de contribuer aux dérives que vous évoquez, tant pour l'égalité, pour les ordres, parce que là s'organise, pour le coup, une semblabilité, avec tous les guillemets que vous y avez apposés. Moi, ça me paraît presque pour le risque inverse, c'est que les petits groupes qui ainsi se fédèrent avec une totale souplesse, avec une de façon totalement éphémère, éphémère pour la durée peut-être extrêmement variable, organise cette forme de distinction, c'est qu'on est dans ou hors du groupe, et est-ce que c'est pas au contraire un mode de, stabilisation, puisque on est moins choqué par le groupe voisin, puisque on n'en fait pas partie, puisque cette tribalisation paraît plutôt avoir le défaut inverse, c'est de nuire au minimum de tolérance que des médias de groupe, des médias de masse causaient. Quand il y avait trois chaînes de télévision dans ce pays, chacun devait se soucier, pour garder son tiers, grosso modo, ou plus sur les téléphones, de l'audience, de ne pas émettre d'opinion de nature à choquer fortement une partie des spectateurs. Donc on arrivait à une forme de consensus. Et on arrivait aussi à une forme d'échange entre gens compatibles. Aujourd'hui, et c'est une dérive qu'on constate à la télévision, le phénomène de niche de marketing, qui fait que chacun s'adresse à des publics de plus en plus restreints, d'une part, ne soumet plus les gens à une opinion autre que la leur, puisqu'ils s'agrègent vers des sites qui, a priori, réunissent des gens de la même opinion, donc ça ne sert qu'à renforcer les opinions et plus à se confronter à d'autres. Mais, encore une fois, cette absence de tolérance, donc il y a une radicalisation d'une certaine façon, ou un renforcement en tout cas des théories de chacun, mais moins l'égalité, puisque c'est presque l'inverse, c'est l'absence de tolérance et de partage et de communication qui me paraît être dans une autre dérive de la démocratie. Voilà, c'est là-dessus.
Alors, les médias, maintenant, c'est les réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord. Il me semble qu'ils ont deux effets pervers possibles. Le premier, c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'ils imposent un côté immédiat qui fait que le respect des institutions qui demandent du temps, les institutions sont lentes, elles doivent être respectées dans leur forme, est un peu contradictoire avec la temporalité propre aux réseaux sociaux qui donne des habitudes de pratiques qui deviennent très éloignées de celles que requiert... Bon, la justice est particulièrement lente en France, mais la justice est toujours lente, elle ne peut être que lente. Et les médias renforcent l'exigence de faire quelque chose immédiatement, renforcent les émotions, et la démocratie qui suppose un minimum de distance et de débat est rendue plus difficile quand on vit dans le rythme, la nouvelle temporalité que les réseaux sociaux provoquent. Voilà, ça c'est le premier point. Et il me paraît très important parce que les institutions, justement, c'est fait pour calmer les passions et l'immédiat et pour prendre le temps, la distance, l'analyse. Et c'est plus difficile quand on passe son temps à être dans l'immédiat, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point pour lequel je crois qu'il risque de renforcer cette tendance. Le second, c'est que tout est possible sur le virtuel. C'est-à-dire que l'idée de limite et de contrôle disparaît parce qu'il n'y a plus aucun contrôle. Alors, les médias classiques avaient élaboré, depuis la loi sur la presse, le droit sur les droits d'auteur, enfin, avaient élaboré un système de contrôle qui faisait que tout n'était pas possible. Et sur le net, tout est possible, tout peut être anonyme, donc il n'y a pas d'idée de la responsabilité. Quand vous publiez quelque chose écrit, vous avez la responsabilité de ce que vous dites, avec tout ce que ça implique, de contrôle sur vous-même, de contrôle par les autres. Là, sur le net, c'est anonyme, donc ça appartient à tout le monde peut l'utiliser, peut le trahir, peut le changer. Et l'absence de contrôle, je trouve que la réflexion sur l'histoire montre que l'absence de contrôle est toujours dangereuse. L'homme a besoin d'un certain nombre de contrôles. Quand les contrôles sautent, je crois que mon voisin ne dira pas le contraire sur moi, ces dernières...
Je suis un conservateur.
Mais oui, moi... Ben voilà. Or, la création d'Internet est la création d'un monde dont on dit qu'il est virtuel. Il est virtuel techniquement, mais il est devenu bien réel par ses effets et ses pratiques. Et dans ce monde bien réel, dans ses effets et ses pratiques, il n'y a pour l'instant aucun contrôle. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour des sociétés qui, spontanément, veulent dépasser toute limite. Et à qui ça donne un lieu où ça peut s'exprimer, et aussi une conception des choses qui est indépendante de toute limite.
Précisément. Une question parce que en vous amenant, en vous déportant
si vous
un petit peu.
Vous permettez juste un dernier point
sur votre intervention
sur la tribalisation. Et je crois que les réseaux sociaux, enfin les données modernes, contrairement à ce qu'on a pu croire, renforcent effectivement la tribalisation, parce que dans l'infini et dans l'absence de limites, on se replie sur les limites qu'on connaît, c'est-à-dire les limites directes. Et que la transcendance républicaine, qui consistait justement à dépasser ses propres limites de naissance et de communauté par un domaine public abstrait commun à tous, ben on ne sait plus où... Ce qui explique d'ailleurs l'affaiblissement de la nation, qui est un thème de Pierre Manant, parce que justement, on est réduit. Parce que comme on ne peut pas vivre dans l'humanité tout entière, du coup, on vit dans ce qu'on connaît et on se referme sur son propre milieu, alors que la société républicaine était fondée sur l'idée qu'on dépassait son milieu d'origine pour entrer en communication, en échange avec tous les autres, au nom des valeurs communes. Et c'est ça qui est... Et c'est ce phénomène-là qui est le phénomène inquiétant pour la dérive possible, qui est renforcé par ces médias.
Excusez-moi. Je vous en prie, Dominique, oui. C'est vous qui avez la parole.
Non, parce que il y avait ce point-là qui me paraissait très important dans votre intervention.
Je voulais vous amener un petit peu sur la nature, au fond, de ce que j'appellerais de votre pessimisme. Même si vous l'avez...
Votre inquiétude.
Oui, bien sûr, votre inquiétude. Je voudrais savoir, au fond, puisque vous avez cité votre père, Raymond Aron, ça me permet de vous mettre dans une forme de filiation, au fond, en termes d'observation, au fond, du politique contemporain, et du politique français en particulier, que vous avez abordé, mais avec énormément de discrétion. Et du coup, j'aimerais bien savoir si votre pessimisme, au fond, est un pessimisme de principe, en quelque sorte, vous voyez, de précaution, c'est l'impression que vous avez donnée souvent. Ou si c'est un pessimisme d'avertissement, si je puis dire, à vocation performative. Il me semble que c'est plutôt ça.
Oui.
Mais vous avez été très prudente de ce point de vue. Et j'aurais bien aimé qu'au fond, si vous le voulez bien, mais si vous le disiez un petit peu dedans, dans la France d'aujourd'hui, évidemment, qui est la, le, le, la première société démocratique à votre main, si je puis dire, hein, pour l'observation sociologique. Au fond, ce que vous voyez, ce que vous entrevoyez, ce que vous croyez voir, ce qui vous inquiète, ça serait évidemment assez intéressant. Il y a deux choses qui me paraissent avoir été absente et certainement volontairement, mais peut-être on peut peut-être vous y amener un petit peu. C'est la question de la parole politique qui n'était pas présente, si je puis dire, en tant que telle. Or, son discrédit, me semble-t-il, aujourd'hui, enfin sa surabondance et son discrédit, son aspect non performatif, etc. Peut-être. Est-ce que c'est une chose qui vous intéresse? La violence aussi, évidemment, on ne peut pas ne pas vous la poser, puisque au fond, me semble-t-il, à l'arrière-plan des risques que vous faites entrevoir, il y a évidemment la question de la violence. Et après tout, on pourrait ramener tout le passage, très intéressant d'ailleurs, dont j'ai conservé mes notes précieusement ici, sur la question de l'égalité et indistinction. On pourrait la ramener vers toute une réflexion d'anthropologues comme Arjuna Padurai, par exemple. Mais au fond, c'est précisément la tendance des sociétés actuelles, et pas forcément les sociétés démocratiques, mais toutes, à des formes d'indistinction de plus en plus grandes, qui, au fond, provoquent, ou risquent de provoquer, ou provoquent effectivement, en particulier, le phénomène de l'agression des voisins. C'est-à-dire que moins, finalement, la différenciation est clair, plus l'indistinction se déploie et plus un principe d'incertitude dans la vie sociale fait que la violence est là pour rétablir une distinction qui manque. Et donc, au fond, il me semble que dans ce que vous dites, il y a un horizon de violence. Est-ce que c'est une violence verbale ? Violence physique ou les deux, bien entendu. Hein, mais c'est une question un petit peu que je me pose. Et au fond, c'est une question peut-être que nous nous posons tous, hein, puisque nous parlions de la parole, effectivement, là, ce qui caractérise la parole sur Internet autour de la parole qui se développe sur Internet autour de la parole politique, c'est une parole d'une extrême violence, hein, qui peut aller jusqu'à des formes d'éliminationnisme. Alors. Voilà, comment vous vous situez par rapport à tout ça?
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses.
Puis je suis très confus, puis le champagne n'arrange rien.
Je vais essayer de faire les trois points.
Le champagne n'arrange rien sur cette heure-ci. Mais vous voyez, j'aimerais que vous approchiez un petit peu de choses un petit peu plus dérangeantes, un peu brûlantes. Au fond, par moments, je pensais à Houellebecq, hein, en vous écoutant, c'est-à-dire extension du domaine de la lutte. Hein, le tableau que vous nous faites, c'est au fond les grands risques d'une extension du domaine de la lutte avec ce que ça veut dire, la lutte.
Alors, je vais essayer de répondre, faire écho. Alors, sur le premier point, l'idée c'est, si vous appelez ça un pessimisme, c'est le pessimisme d'avertissement.
Oui, mais
hein, ça, c'est très clair.
Je ne suis pas choqué. Hein,
c'est bien ça. Il faut comprendre des risques pour se donner une meilleure chance, les ayant compris, de ne pas y céder. Donc, je ne dis pas qu'on y cède, mais je prends des éléments qui montrent que je prends, grâce à la connaissance sociologique et à mon expérience d'individu social, je montre des éléments qui vont dans cette direction. On m'a demandé sur le mariage pour tous. Je suis ni pour ni contre. J'analyse le fait que c'est une étape dans ce problème de l'indistinction qui veut dire qu'un mariage entre un homme et une femme, c'est pas la même chose qu'un mariage entre deux hommes, paraît scandaleux. Alors qu'il y a une différence, quoi. C'est pas la même chose. Bon. Donc, c'est le moment où l'indistinction, au nom de l'égalité...
On refuse de sorte biologique.
On refuse qu'il y ait une différence entre les deux sexes et que, par conséquent, un mariage du même sexe et un mariage de sexe différent, c'est deux choses différentes. Bon. Et le moment où toute différence est considérée comme une inégalité. Bon. Alors, au nom de l'égalité, il faut, puisqu'ils s'aiment, ils doivent avoir les mêmes conditions que les uns et les autres, au nom de l'égalité, on risque de refuser la différence. Donc, c'est Donc, d'abord par tempérament, enfin, je veux dire, c'était pas du tout, les conséquences politiques n'étaient pas du tout tirées dans le livre parce que je voulais rester sur le plan sociologique et que je pensais que c'était plus intéressant. Mais c'était l'intention politique, au sens général du terme, c'était bien d'avertir sur ce qui pourrait arriver pour que ça n'arrive pas. D'abord, de bien souligner que toutes ces critiques et séries sont à l'intérieur quand même des sociétés les plus souhaitables qu'on ait connues dans l'expérience historique, et ensuite de bien comprendre ce qui peut se passer pour que ça ne se passe pas. Bon, donc ça, c'est le premier point. Alors, la parole politique aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a des phénomènes qui sont français et il y a des phénomènes plus généraux. La République représentative a toujours eu une double dimension. Une dimension démocratique par le fait que les gouvernants sont sous le contrôle des gouvernés par l'intermédiaire du vote, mais une dimension aristocratique, puisqu'il paraissait normal de choisir des plus compétents, un peu compétents pour une raison ou pour une autre, mais plus compétents en politique. Et donc il y a toujours eu cette distinction qui était au fondement de la République représentative. Sinon, on est dans la République, on est dans la démocratie directe, ce qui ne peut pas marcher, mais il y a eu... Les Américains en particulier l'ont beaucoup débattu à la fin du XVIIIe, cette double dimension à la fois aristocratique et démocratique dans l'idée de représentation. Au fur et à mesure que grandit l'exigence démocratique, l'idée même de représentation est remise en cause parce que, à la limite, personne ne peut me remplacer que moi-même. Je ne suis représenté que moi-même. Je ne suis représenté par personne que moi-même, si on va jusqu'au bout de l'exigence démocratique. Donc l'exigence démocratique rend plus contestable l'idée même de représentation et l'exigence qui est portée sur les politiques. En plus, les pratiques démocratiques, l'idée démocratique se fait au niveau national et beaucoup de décisions que les politiques peuvent prendre sont d'un niveau qui n'est pas le niveau national. Donc le sentiment, d'une part, qu'ils n'ont pas la légitimité de me représenter et d'autre part, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, me paraît inscrit dans les, si vous voulez, objectivement dans la situation des démocraties aujourd'hui, parce que il y a ce problème de légitimité très important qui fait que la démocratie ne s'est jamais exercée qu'au niveau national et par conséquent, et oui,
vous rappelez, d'ailleurs,
ça c'est le grand thème de Pierre Manant. Ouais, là nous avons, alors lui pense que c'est nécessaire et que ça peut s'exercer qu'au niveau national. Moi je garde plus ouvert l'analyse en disant on peut penser que ça pourra un jour, mais il n'est pas douteux que historiquement, ça s'est toujours exercé au niveau national. Et par conséquent, la relative impuissance du monde public sur les phénomènes ne peut pas, les citoyens ne peuvent pas en prendre, ne pas en prendre conscience. Alors, pour en revenir à la critique des politiques, la limite de leur pouvoir me paraît faire partie des conditions objectives. Et l'indistinction, je crois que c'est en effet très important. Et à l'appui de ce que vous avez dit, puisque vous pensiez évidemment au Rwanda et au meurtre des voisins, mais on a l'exemple de l'antisémitisme. Il y a eu un anti-judaïsme quand c'était clair, les juifs on les reconnaissait, ils habitaient dans un autre endroit, ils ne s'habillaient pas comme tout le monde, ils étaient à part. Le jour où ils s'en mirent ressembler aux autres, et on a découvert tout d'un coup qu'ils étaient juifs alors qu'on ne le savait pas, est né l'antisémitisme, parce qu'on ne savait plus où on en était. Et je crois que l'effet pervers de ne plus savoir où on en est, de ne plus avoir ces catégories qui ordonnent le monde et qui finalement renvoient, comme le dit Marie Douglas, à la catégorie du pur et de l'impur, comme ça, comme horizon lointain, mais qu'on sache où on en est. De même que les enfants ont besoin d'avoir des règles claires pour se former, plus généralement, je crois que les sociétés ont besoin d'avoir des catégories dans lesquelles les individus peuvent se reconnaître et échanger. Et donc, l'indistinction est un véritable danger parce que elle est un risque, je dirais, ontologique, enfin profond dans la manière d'exister des sociétés. Et si elle débouchait sur l'absence de contrôle, elle déboucherait sur la violence, puisque sans les institutions qui organisent la liberté, on tombe dans la violence, c'est-à-dire on tombe sans le contrôle des plus forts, on tombe sur la loi des plus forts qui s'exerce au dépens des plus faibles. Je veux dire, on l'a toujours dit, c'est la loi qui protège les plus faibles. Et donc l'absence de contrôle débouche sur la possibilité des plus forts d'imposer leur loi aux autres, ce qu'on peut appeler la violence. Alors, ils peuvent le faire de façon différente, hein, avec des degrés différents, etc. Mais le fait que les Hutus et les Tutsis, on ne pouvait pas les distinguer...
a aggravé considérablement.
Considérablement. Absolument. Et dans les formes modernes de l'antisémitisme, le fait qu'on ne les reconnaît plus a été un élément de violence qui s'inscrivait dans une longue tradition, ouais, par ailleurs, mais enfin qui renforçait le phénomène.
Et ceci est contre-intuitif.
C'est contre-intuitif.
Nos sociétés pensent au contraire que
les braves juifs ont cru qu'en ressemblant aux autres, en étant bon républicain, bon père, bon époux et bon polytechnicien, ils allaient faire tomber
l'inverse. C'est exactement l'inverse.
Ce thème de la distinction et de la violence, ça rejouait tout à fait les idées de Girard sur la crise mimétique. On est en plein dedans, là. Alors pour toutes les sociétés, pas seulement démocratique.
Oui, c'est un tout petit peu moi ce qui me gêne, si vous voulez, oui, les sociologues avec Girard, parce que
justement,
ça a un côté ontologique fondamental. Quand on est plus historien ou sociologue, on préfère le faire partie d'une condition.
Mais enfin, c'est quand même bien.
C'est pas contradictoire. Oui, ça s'inscrit bien dans la. Et la nécessité, si vous voulez, d'avoir des limites intellectuelles, des limites de frontières, des limites de pays, enfin, que la liberté s'exprime et à travers des limitations, qui n'est pas une idée originale, si vous voulez, en elle-même, parce qu'elle est, encore une fois, le produit de toute une tradition philosophique, mais elle prend c'est les formes nouvelles que la démocratie risque de lui donner qui sont l'objet du livre.
Et dans un monde moins démocratique, du mariage des prêtres, par exemple, est-ce que les femmes doivent être prêtres ou pas? Il y a des discussions exactement du même type. Si cette distinction
n'existe plus. Toutes les sociétés ont été fondées sur la distinction entre un principe féminin et masculin, avec des tas de conséquences. Nous sommes la première société qui prétend, il reste énormément de choses, vive la différence, absolument, tapez pour, mais qui prétend dépasser la polarisation de la vie sociale entre le féminin et le masculin, quoi, qui est une polarisation très, très classique et quasiment universelle.
Oui. En fait, moi je suis membre de l'entreprise, donc je manipule moins évidemment ces concepts. Non, la question c'est qu'on a fait un travail de prospective en fait pour cette entreprise en mélangeant des gens de diverses natures, sociologues, artistes, architectes, géographes, des gens de l'entreprise, et qu'on les a confrontés à une vision du futur exprimée par des climatologues, des démographes, des énergéticiens, des hommes de ressources. Ils ont des technologies aussi, ils ont un peu aussi sur les choses sociales, pour essayer finalement d'avoir une lecture très subjective finalement de ce qui pouvait être devant nous à horizon 20 ou 30 ans. Et en fait, ce qui sort de cette lecture, je dirais bigarrée, très bigarrée, volontairement bigarrée, croisée, subjective, en fait, ce sont des réalités qui se dessinent, qui nous paraissent extraordinairement difficiles à assimiler par une démocratie. Donc on est.
À savoir.
Alors il y a deux choses qui sortent. Enfin il y a plusieurs choses qui sortent. La première chose, c'est une vie humaine beaucoup plus fragile. La vie humaine beaucoup plus fragile parce que on est beaucoup plus vulnérable aux aléas climatiques, les effets de la santé humaine. Il y a même des effets physiologiques sur le développement du corps humain où on voit aujourd'hui à travers un certain nombre de recherches. Si vous voulez, que le fait qu'on ait repoussé nos limites physiques d'espérance de vie est complètement lié au fait que l'homme, depuis 200 ans, a été capable d'absorber l'énergie fossile qui était disponible autour de lui, et qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout en capacité d'absorber davantage, puisqu'il y en a moins à côté de
nous. C'est-à-dire que le fait que la vie humaine soit de plus en plus longue, ça va s'arrêter.
Ça va s'arrêter, on bascule maintenant. On bascule, et ça a commencé à basculer. Ça
a basculé.
Donc, voilà, c'est bon. Vous avez des groupes.
Oui, vous avez des groupes. Il y a un moment, il faut s'arrêter.
Dans les États-Unis, il y a d'autres cas.
Oui.
La Russie, ça a toujours été.
C'est étudié. c'est étudié à l'IRMES, à l'INSEP. Et si vous voulez, il y a des groupes humains en France aujourd'hui dont l'espérance de vie, c'est 41 ans.
En fonction de...
Les SDF à Marseille, espérance de vie 41 ans.
Oui, des conditions sociales. Quoi.
Oui, mais c'est aussi des conditions sociales, si vous voulez, que la collectivité n'est plus capable d'assumer. On n'est plus capable de les aider, ces gens-là. Donc voilà, c'est aussi ça les réalités. Donc si vous voulez, le socle biologique, la concurrence avec les organismes vivants, tout le monde, vous avez la dengue, le chikungunya, on ne sait pas les traiter, toutes ces maladies-là qui arrivent, on
ne saura pas traiter,
les antibiotiques ne fonctionnent plus. Donc si vous voulez, une précarité de la vie humaine, toute problématique de l'accessibilité à l'énergie fossile, avec les conditions de dégradation de l'environnement, les ressources, l'alimentation qui va coûter de plus en plus cher, vous avez des gens qui sont exclus de circuits traditionnels d'alimentation, enfin si vous voulez... Sans avoir envie d'être pessimiste, si vous voulez.
Non.
Je vous assure qu'on a des collègues, des séances, si vous voulez, on avait envie de tous à la fin de vraiment.
De se dépêcher de profiter de la vie.
Je ne sais pas.
Quel monde on laisse à nos petits-enfants.
En tout cas, si vous voulez, c'était une réalité. On était arrivé sur une lecture, sur dessiner un espèce de cadre, de lecture commun, et on a convergé tous sur l'idée, effectivement, d'une vie humaine beaucoup plus fragile et beaucoup plus vulnérable. Sincèrement, on voit aujourd'hui qu'une proportion de plus en plus importante de la communauté française qui devient pauvre, qui sort des circuits. Je suis assez inquiet. Donc je me pose la question en fait, de la capacité d'une démocratie à renouveler finalement son idéal, qui peut-être s'incarnera dans d'autres principes que ceux-là. Et je pense que c'est peut-être le challenge, je dirais, principal de nos institutions, d'être capable de... Et regardez la complexité du discours politique aujourd'hui. Je suis effectivement assez inquiet. Bon, je ne sais pas si j'ai une question, mais voilà.
Non, mais c'est un prolongement qui est intéressant.
Je voulais juste partager ces éléments avec vous.
Oui, mon inquiétude est partagée.
Eh ben, on est plutôt dans un climat général de pessimisme.
Parce que en même temps, il y a tous ces savants que je cite là. Qui vous explique qu'on va tout refaire de l'homme, enfin que l'homme avant entre la nano, toutes les nouveautés techniques, il y a plus d'horizon de la mort, enfin que tout ça va.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'absence d'horizon de la mort?
Ah ben vous verrez là. Mais c'est des gens, je veux dire, c'est des gens qui, c'est pas le fou du coin quoi, qui peut raconter n'importe quoi.
Non, mais je suis très sérieux, c'est-à-dire que le seul
système politique qu'il a approché, c'est le communisme. Dans ses versions les plus staliniennes, on trouve dans les versions les plus staliniennes du communisme l'idée qu'un jour il y aurait moyen de supprimer la mort de l'horizon de l'humain.
Au nom de la politique et maintenant c'est au nom de la science.
Oui, c'est ça. Mais c'est néanmoins la science qu'il ferait dans un cadre politique. Dans le cadre du communisme.
Là-dessus, il faut se réfugier chez les poètes. Dans plein de romans ou de films de science-fiction, vous avez la mise en place d'une société qui est devenue immortelle. Oui. Le plus célèbre, c'est Sardos. Sardos a des premiers films avec Sean Connery. Et c'est la société en question qui s'est élitisée, le reste du monde est là, enfin, et maintenant, vague aux occupations qui permettent aux immortels de vivre, et les immortels se battent entre eux pour reconquérir le pouvoir de mourir. C'est les seuls qui ont vraiment réfléchi là-dessus.
L'existence de la science-fiction elle-même fait partie de ce rêve, ce refus de toute limite.
C'est l'imagination qui crée un monde sans limite.
Mais c'est un truc que Heidegger avait dit à propos de la théorie.
Qui ?
Heidegger.
Ah oui, oui. Non, mais...
mais qui disait que le problème avec l'écologie et la science, c'est cette idée, typiquement on a l'idée qu'en maîtrisant la nature, tout le monde est bien heureux. Il y a un brin d'égalité là-dedans, mais c'est un mensonge. Justement, il a pointé un peu cette contradiction entre l'égalité, la condition et la réalité.
En fait, ce qui frappe au surplus, par exemple, dans les démocraties, c'est l'incapacité
à renouveler un désir de progrès collectif. Ou à le dessiner, ou à le circonscrire. Quoi.
Le XXe siècle a été dramatique de ce point de vue-là, parce qu'on a vu à quoi la raison avait abouti.
Grandes utopies de l'époque.
Voilà. La raison a abouti à détruire scientifiquement, au lieu de tuer les hommes scientifiquement au lieu de le
précisément
faire.
Précisément par rapport à cette pensée du 18e,
on a pensé que le progrès de la raison mènerait au progrès moral.
Le 20e siècle, le tragique du 20e siècle s'intercale entre cette pensée et la nôtre.
Absolument, voilà. A démontré que le progrès de la science pouvait servir soit dans le bien, soit dans le mal.
Et que faites-vous?
Et dans l'efficacité de la destruction des hommes, l'efficacité de l'organisation et de la technique a permis de tuer les hommes scientifiquement, industriellement.
Il est identifié, et en plus de donner un support moral pour être capable de identifier l'autre,
pour le déculpabiliser. Oui, alors ça, le XXe siècle nous a guéri une fois pour toutes. De cette illusion. Enfin, pour les gens qui veulent bien réfléchir. Oui, nous agréer. Et donc c'est vrai qu'après avoir vécu le XXe siècle, on a plutôt tendance à sentir les limites du projet. Oui. Et c'est là où j'avais dit à la fin, il faut voir ce qu'on peut garder de du beau projet des Lumières, c'est-à-dire l'idée tout de même du respect de la raison de l'homme et de la dignité réciproque des personnes, qui est quand même au cœur de l'idée des Lumières, et de voir comment l'adapter à l'expérience historique qui nous en montre concrètement les limites.
Ouais. Alors, c'est pas jeter le bébé avec l'eau.
Voilà, il ne faut pas jeter la raison avec ni l'espoir politique avec le nazisme. Quoi.
Et là, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais bien vous interroger, parce qu'il est aussi très contemporain. Vous avez évoqué les révolutions du Maghreb, etc., à un moment, en disant, au fond, il y a une aspiration presque partout à la liberté politique, hein, ce qui me paraît très...
Bon,
on pourrait dire qu'à travers l'islamisme, par exemple, il y a des choses un peu différentes aujourd'hui, mais enfin, pour l'instant, ça reste relativement minoritaire. Et au fond, vous dites, voilà, il faut beaucoup de temps pour élaborer, donc le temps nécessaire à une acculturation, finalement,
oui,
c'est ce que je défends pas votre pensée, le temps nécessaire à une acculturation donc, de la démocratie dans nos sociétés. Et moi qui ne suis ni sociologue ni politiste, je me souviens très bien que mon vieux maître René Raymond, c'était une de ses grandes idées sur le temps, la temporalité de la démocratie, le temps qu'il fallait donc pour finalement l'implanter. Aujourd'hui, c'est un des problèmes que nous rencontrons dans toute une série de pays en guerre ou déchirés.
L'Allemagne en 1920, l'Allemagne en 1920,
la démocratie,
l'Irak à la pointe des baïonnettes, on n'établit pas la démocratie comme ça.
Ou après une révolution démocratique, si l'on peut dire, la démocratie ne s'implante pas et même recule. Alors, de ce point de vue, ça me paraît une idée, c'est une évidence, mais finalement, pourquoi? Pourquoi ce temps? Qu'est-ce qui fait que ce temps est nécessaire? Si vous avez raison, et j'en suis persuadé d'ailleurs, si ce temps est nécessaire, il y a aussi un élément très pessimiste sur l'évolution de toute une série de sociétés contemporaines qui interagissent avec nous de l'autre côté de la Méditerranée, en Afghanistan, ailleurs, ou en Irak, où nous voulons pour eux la démocratie, où nous pensons qu'ils la veulent, ce qui est sans doute vrai pour eux, et où cette implantation ne peut pas se faire. Est-ce que cette question du temps, qui a été une question qui a retenu ce séminaire autrefois, l'expérience du temps, temps de la démocratie ou de la démocratisation ou de l'implantation
démocratique,
comment vous réfléchiriez à cette question du temps?
Parce que je crois que la démocratie est un régime tout à fait non naturel. C'est-à-dire qu'il est tout à fait contraire au caractère spontané. Spontanément, les forts écrasent les faibles et s'établissent sur eux. Un régime qui dit mais non, les faibles et les forts ont les mêmes droits et n'est pas spontané, naturel.
Un énorme effort sur soi.
C'est le fruit d'un long effort, et comme il suppose qu'il soit fait par tous, par définition, il faut le temps que les différents groupes d'une population l'acceptent. Moi, j'ai toujours été frappée par l'échec de la République de Weimar, quand même au cœur de l'Europe, au cœur de la culture européenne. Bon, la démocratie a été imposée par la défaite, elle a été liée à la défaite et au sentiment d'injustice que les Allemands ont eu sur la fin de la guerre, et elle a résulté ce que nous savons. Et elle renaît en 49 parce qu'elle repartait de zéro. Je veux dire, tout était détruit, repartait de zéro, donc elle a tout recréé très progressivement, Et je crois que les alliés l'ont aidé en donnant très progressivement du pouvoir, en donnant du pouvoir aux États plutôt qu'aux... Je veux dire, on l'a reconstruite de la base.
Au niveau local.
Au niveau local, très progressivement. Ils ont maintenant une démocratie exemplaire, autant que la démocratie peut l'être. Mais l'échec des années 20, je trouve, est très, très intriqué. C'est un régime non naturel.
Mais la séance de Nilufer en Bolivie la dernière fois, quand elle parlait des Occupy Movements, justement, on voyait bien ces choses. Ça ne peut pas vous dire quoi.
Et alors apprendre, si vous voulez, apprendre que, au fond, séparer l'institution des personnes, c'est très abstrait. Une fois que c'est dit maintenant pour nous, ça va de soi, mais dire qu'il faut respecter l'institution indépendamment du président, indépendamment de ce qu'est le président, c'est pas du tout une idée spontanée, c'est une idée qu'il faut apprendre. Et d'ailleurs, les deux corps du roi. Il a fallu des siècles pour séparer le roi est mort, vive le roi, c'est-à-dire la séparation de la personne et de l'institution, remonte en Europe à plusieurs siècles.
Et ce que l'on pourrait peut-être dire aussi, c'est à quel point nous sommes parfois, nous-mêmes, partie prenante, alors démocrate.
On sent bien que c'est un effort.
Que c'est un effort, qu'il faut que nous fassions un effort sur nous-mêmes.
Ouais.
J'ai déjeuné avec le président de la République, ça m'intéressait beaucoup. Si je devais déjeuner de nouveau, s'il y avait de nouveau un déjeuner d'historien avec le président actuel, mon devoir de citoyen français et d'enseignant du supérieur, ce serait évidemment de considérer l'institution.
Ouais.
Et pourtant,
premier
réflexe, rien à faire à l'Élysée. Je n'ai pas été, et à ma grande honte, parce que le problème, c'est que c'est toujours les autres qui ont tort. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on soi-même, on a tort. C'est le moment-là qui est intéressant.
On se rend compte que c'est pas, que ça va pas.
C'est comme le racisme, si vous voulez. On dénonce toujours le racisme des autres. Ce qui est intéressant, c'est le racisme en soi. C'est celui-là qui est
quand
intéressant.
Quand on constate qu'on n'est peut-être pas...
L'autre, c'est très facile. C'est celui-là qui est intéressant. Et quand j'ai été invité en tant qu'historien de la Première Guerre mondiale au lancement du centenaire à l'Élysée, qui était relativement neutre politiquement, donc c'était le 7 novembre, eh bien... Mon réflexe a été de ne pas y aller et je n'y ai pas été. Et j'ai eu tort.
Ouais.
Et c'est ça que je trouve. Ce qui est intéressant, c'est le moment où nous-mêmes, nous basculons du côté de la mise en cause de la démocratie.
On revient à la nature.
Et où ce régime non naturel nous exaspère. Et où on ne peut plus distinguer l'institution de la personne, etc. Et je trouve que ça nous arrive souvent. De même que
un exemple admirable, que moi je trouve admirable. Il est clair que la deuxième élection de M. Bush, c'était évidemment l'autre qui avait gagné.
Oui.
C'était clair. Hein. Et bien c'est John Kerry lui-même qui a dit qu'il faut respecter la décision de la Cour suprême. Il y avait 5 voix contre 4, la droite contre la gauche à la Cour suprême. Il était évident que le titre du Texas avait triché, que les voix du Texas... Tout, c'était absolument clair.
La Floride.
Enfin, vous vous souvenez, l'équité disait évidemment que c'est John Kerry qui était élu. Et c'est John Kerry qui a dit, le jour où la Cour suprême a pris cette décision inique, il a dit...
Il faut respecter la décision inique.
Il a dit, c'est tout, on respecte. Il n'a pas dit qu'elle était inique, il a dit, la Cour suprême a décidé, c'est tout. Bon, quand on est dans l'indignation au nom de la justice, on n'est pas dans la médiocrité nécessaire de la démocratie. Mais il faut apprendre, ce n'est pas spontané.
Monsieur Balladur avait demandé le silence aux militants qui huaient Monsieur Chirac quand il a été battu par le dénommé Chirac.
Ah oui, ça, c'était pas bien.
Oui.
Mais quand Giscard est sorti sous les huées en 81, c'était pas bien non plus. Je veux dire, il avait respecté les institutions, il avait été battu, et il avait respecté les institutions.
Est-ce que finalement la démocratie n'est pas une condition d'existence de la démocratie, c'est pas une certaine forme d'amélance?
Ah, c'est un vrai problème ça. Parce que comme il y a beaucoup d'exigences, si on ne peut pas satisfaire ces exigences du point de vue économique, c'est un vrai problème pour les démocraties.
Et justement, ce qui est en boisson, si vous voulez, dans vos travaux,
c'est qu'on voyait plutôt une montagne de contraintes arriver et une montagne de pénuries, si vous voulez. Et donc, effectivement,
la pénurie n'est pas favorable à l'idée démocratique.
Et la seule voie de sortie, quelque part, c'était de passer d'un modèle du bien, on parlait du bien, du bon, du bien et du beau, d'un bon, du bien et du beau matériel, qui s'est matérialisé avec la société de consommation, de réinvestir, quelque part, le champ de l'immatériel. Qui est, quelque part, la seule voie de sortie pour retrouver, quelque part, une espèce de progrès qui soit déconnecté de la consommation des matières premières et l'énergie.
Oui, c'est un vrai problème. Est-ce que nos démocraties sont capables de supporter une baisse du niveau de vie? Apparemment, les Français n'en veulent pas.
Très mal.
Très mal.
Mais c'est vrai que c'est un problème, parce qu'à partir du moment où elle se donne comme ambition de donner des conditions de vie dignes à tous ses membres, quand les conditions objectives rendent difficile cet objectif, ça remet en cause la légitimité démocratique, plus que dans les autres formes de régime.
Ce qui est bien, c'est qu'on sort toujours de ces séminaires avec un
moral
très remonté. C'est très agréable.
Peut-être un peu pessimiste, oui. Les sciences sociales le sont souvent. C'est vrai que les sciences sociales sont souvent assez pessimistes.
Oui. Une remarque alors complètement profane, parce que moi aussi je travaille dans l'entreprise et en école de commerce, mais qui va peut-être finir sur une note un peu optimiste, c'est qu'en tout cas mes étudiants, et même ce qui se fait en marketing, que ce soit en recherche et que ça, vont plus dans le sens de quelque chose vers l'immatériel. Il y a tout le marketing durable qui se développe, la responsabilité sociale des entreprises qui se développe. Je veux dire, un exemple qui aurait été impensable il y a quelques années, un grand distributeur qui déréférence toute une marque, une marque très, vraiment très connue, qui fonctionne bien, parce qu'il pêche du thon dans des eaux qui ne sont pas acceptables, au risque de perdre ses clients, de perdre du chiffre d'affaires. Donc il y a quand même des réalités. Beaucoup de thèses en gestion aujourd'hui sont vraiment sur le concept de bienveillance, sur le concept de bien-être au travail. Et en fait, je me demande dans quelle mesure on va arriver peut-être à une convergence d'intérêts individuels, d'intérêts collectifs, et même quelque part
financier.
Et financier également, hein, parce que le marketing durable, c'est quelque chose qui est rentable, mais qui est une autre forme de marketing et de consommation. Donc bon,
c'est un renouvellement effectivement des valeurs, et donc des valeurs attirant quelque part l'économie.
Les valeurs peuvent être un fondement, disons, d'activité économique.
Et mes étudiants, ils ne demandent plus combien on gagne en faisant du marketing, ils demandent quel est le sens du job que vous faites, ou de ce qu'ils en font, etc. Ils sont vraiment sur une quête de sens.
Très bien.
Alors vous avez des grandes entreprises là, effectivement, qui me sollicitent, là, qui travaillent sur les questions de vision. Qui se rendent compte, si vous voulez, que le projet économique est devenu prépondérant, combien je fais l'argent la semaine prochaine, machin, et que finalement ils ont délaissé pendant des années leur raison d'être, et ils réinvestissent finalement ce champ-là parce qu'ils sentent bien que c'est la seule chose en fait qui les tient les uns et les autres, c'est finalement la raison d'être de l'entreprise. Quoi. Et donc en réinvestissant ce champ-là, ils sont obligés de se reposer des questions sur la finalité, sur dans quel système de valeurs finalement ils évoluent. Mais quelque chose de profond, pas uniquement, si vous voulez, l'aspect communication. Quoi.
Bah, écoutez, les hommes ont besoin de donner un sens à leur existence. Alors gagner de l'argent n'est peut-être pas n'épuise pas la question.
Non, c'est une mesure
intermédiaire. Ça n'épuise pas la question, et donc il y a
voilà, l'optimisme peut-être.
Voilà, absolument. Voilà. Mais j'ai bien dit que l'histoire n'était pas écrite d'avance, hein, et que
l'optimisme ne se dissolve, je propose qu'on reste dessus.